Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 27 septembre 2019 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée de mon acolyte Adrien.
Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 10 du Café de l'e-commerce. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille en suivant cette actualité différemment dans vos oreilles.
Si vous aimez ce que vous allez écouter, laissez vos commentaires et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast.
N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur Instagram ou sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité et des coulisses du podcast. Tous les liens sont dans la description.
Nous sommes un podcast indépendant et nous ne sommes affiliés à aucune société privée. Notre avis n'engage que nous.
Au menu de ce 10e numéro, et vous vous entendez un petit peu de bruit derrière nous, on va vous expliquer où on est, du Café de l'e-commerce, les news internationales, l'Amazon et notre deuxième invité, Guillaume Tessier, Go-to-Market stratégiste. Nous enregistrons ce numéro en direct du lobby bar d'Odette, l'auberge urbaine, en plein cœur de Paris.
Vous n'avez pas le temps de faire de la veille, on vous sert un bon Jet 27, à ne pas boire cul sec.
Laetitia.
Adrien.
Prêt. Synchronisation des montres. Alors, quoi de neuf chez nous, Laetitia ?
Alors, moi, je souhaiterais parler de quelque chose qui est hyper actuel. Du coup, on est bien le vendredi 27 septembre. Et aujourd'hui, démarrent les French Days. Les French Days, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu... on reprend le principe très simple du Black Friday, qui est arrivé en 2014 en France, en tout cas sur le marché principalement du e-commerce. Et c'est voilà, 3 jours sur un week-end, de prix très réduits, ou en tout cas des tarifs assez concurrentiels, sur voilà, une période donnée. Donc c'est en dehors des soldes, on n'est pas sur des périodes de soldes. Et à l'origine, ça a été lancé en France en 2018 et initié par six sites e-commerce importants en ligne français. Donc on parle de Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroom Privé. Aujourd'hui, ils sont plus de 200. Oui, Adrien, tu m'interromps.
Je ne suis pas sûr que ça ait commencé en 2018. Alors il me semble que ça a été lancé il y a quelques années déjà. Parce que ça avait commencé avec 2-3 acteurs.
J'ai l'impression que c'est 2017, moi.
Même peut-être avant, je sais pas.
Et tout ce que j'ai trouvé me parle de 2018.
Ok, ça me paraît vraiment
bizarre. Justement, je me disais, j'ai l'impression que c'est tellement bien ancré dans les mœurs et institutionnalisé, voilà, qu'on a l'impression que c'est là depuis toujours. Donc à vérifier, mais moi de ce que j'ai vérifié, c'est toutes les sources parlent de 2018, mais j'ai bien l'impression que c'est arrivé avant. Donc là, sur ce week-end-là, on va retrouver plus de 200 marchands. Il y a Asos qui s'est joint à l'opération, Carrefour, Kiabi, Sarenza ou encore Monoprix, Amazon. Et il y a aussi ce qu'on disait la semaine dernière à propos des digital native vertical brands. Moi, j'ai reçu plein de newsletters ce matin sur de petites marques comme ça en ligne qui aussi se prêtaient au jeu des French Days.
Il y a quelques années, c'était une initiative locale pour contrer un petit peu le Black Friday. Et je trouve que les acteurs, quelques acteurs sont mis ensemble. Il y a énormément de e-commerçants, d'e-marchands qui les ont suivis. Et chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et à la base, ça devait être électronique. Et ça s'est complètement ouvert. Maintenant, c'est juste une excuse,
exactement,
un prétexte à faire des soldes et à communiquer. Donc, c'est plutôt pas mal.
Et surtout, c'est pas anodin au niveau du calendrier, puisque là, on est déjà plus d'un mois après les achats pour la rentrée scolaire. On est un peu dans une période creuse, en fait, d'achat. Il y a Halloween, mais en gros, enfin, Halloween, c'est pas non plus le creux des achats, en tout cas en France. Et puis surtout, on est à 12 semaines avant les achats de Noël. Donc voilà, c'est pas un hasard du calendrier.
Tu voulais nous parler de Sephora également, Laetitia ?
Oui, alors je voulais faire un tout petit zoom sur Sephora. Alors je vais vous parler d'un article qui est quand même assez vieux, qui date de 2017, mais qui moi m'a vraiment interloqué. C'est un article qui est paru sur Medium. Alors je lis souvent des articles sur Medium et là ça parlait de Sephora qui explosait en Chine, et dans cet article on évoquait plusieurs facteurs de cette croissance exponentielle et assez exceptionnelle sur Sephora et sur ce territoire. Donc Sephora, c'est présent en Chine depuis 2005 et l'enseigne dispose de 200 magasins répartis dans 50 villes chinoises, et des villes qui sont pas anodines, qui sont bien choisies parce que Sephora souhaite cibler, et le fait très bien, une audience jeune, plutôt génération très connectée, donc ce qu'on appelle la génération Y, et qui est toujours en demande d'expérience client plus innovante, et beaucoup de conseils et beaucoup de sur-mesure, de custom. Donc comme je le disais, l'implantation est vraiment pas anodine. Pour Sephora, les magasins en Chine sont considérés comme des laboratoires. C'est là qu'on va tester les nouvelles tendances, des nouveaux produits. Et surtout, c'est là qu'on va vraiment travailler l'expérience client avec de nouveaux services. Donc, De ce que j'ai retenu de cet article, c'est un ancrage local fort, on s'adapte et surtout on adopte les us et coutumes locaux. Et ça, c'est la recette pour Sephora qui appartient au groupe LVMH sur le territoire chinois.
Il y a quelques années, quand on était dans, je dirais il y a 7-8 ans, c'était vraiment la mode d'aller se lancer en Asie. En tout cas, je ne sais pas si c'était une mode, mais en tout cas, c'était l'actualité. Toutes les marques voulaient se lancer en Asie et on leur disait gare à tes fesses, parce que si tu fais n'importe quoi et si tu investis juste avec un site e-commerce, ça ne fonctionnera pas. Il y a, tu viens de le dire, les us et coutumes, donc la culture est différente, les infrastructures en termes légaux, c'est complètement différent, et on était même arrivé jusqu'à avoir un partenaire local en Chine pour accompagner, déjà l'Asie, c'est pas que la Chine, mais pour adresser le marché, il faut avoir des relais locaux et être bien accompagné. Donc c'est particulièrement intéressant de voir que Sephora réussit. Il y en a d'autres, des marques européennes. Je sais que dans le luxe notamment, il y a beaucoup de succès en Chine, mais il y en a plein d'autres qui se cassent les dents, et peu importe l'argent que tu mets, quand ça va pas fonctionner parce que t'as pas la bonne stratégie, ou il n'y a pas le market fit, ou parce qu'il y a une protection côté chinoise, ça peut pas fonctionner. Laetitia, je voulais te, dans la rubrique levée de fonds, il y avait deux news que je voulais mentionner sur ces derniers jours. Splio d'abord, qui lève 10 millions d'euros. Ils avaient déjà levé 10 millions en 2016. C'est une société, je crois, qui a 20 ans maintenant, enfin en tout cas un peu moins de 20 ans. Ils proposent des outils de fidélisation pour les marques, et je crois que ça s'est beaucoup ouvert, parce que moi à l'époque où je les connaissais, c'était vraiment l'outil qui te permet de proposer cette plateforme ou cette solution de fidélisation pour tes consommateurs, donc B2B2C. Et là il semblerait qu'ils soient ouverts beaucoup plus sur le marketing, l'analytics, etc.
Et l'international aussi. On parlait de la Chine, ils sont rentrés sur le marché chinois. Alors je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas on en entend régulièrement parler.
Et notamment là, la levée, elle servira pour accompagner sur le mobile.
Et moi, je souhaitais vous parler de Stripe, qui vient de lever 250 millions de dollars. Voilà, donc Stripe, c'est même plus licorne, on parle de décacorne. Stripe fait partie donc de ces entreprises non cotées en bourse, mais qui sont valorisées plus de 10 milliards de dollars.
Ils sont valorisés 35 milliards, non ?
32.
Ou 40 ? 32, ouais, c'est ça.
Ouais, ils sont
c'est
valorisés 32.
Alors, pour la petite blague, la semaine dernière, on a enregistré vendredi, on a fini l'enregistrement, on a regardé nos news, on s'est dit, mince, on a complètement loupé
ça.
Ouais, bon, ouais. C'était vraiment le dernier, je crois que ça a été annoncé vendredi ou jeudi soir. Et
ouais.
Donc on n'a pas
et
pu
puis
le courir
avec
le
décalage horaire. Alors moi, pour info, j'ai travaillé dans le paiement, et à l'époque, on voyait Stripe un peu comme un acteur du mid-market, et en fait, pas du tout. Là, les gars, ils sont partis en embuscade, et leur concurrent, c'est du PayPal, du Checkout, qui est un payment provider UK, mais qui fonctionne plutôt bien aussi. Voilà, donc ils sont vraiment dans la catégorie, dans une autre dimension, on va dire, hein, Stripe. C'est une société américaine d'origine irlandaise, donc, qui est basée dans la Silicon Valley, et ça a été créé en 2009. Voilà, donc en 10 ans, comment on est capable de devenir une décacorne, c'est juste assez impressionnant.
Dernière levée de fonds qu'on voulait évoquer pour ce numéro avant de passer à l'Amazon, c'est le Automatique, la société mère, on va dire, qui gère WordPress et WooCommerce. Alors WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme de blog open source qui a également une offre premium, mais on va dire c'est
offre e-commerce aussi.
Une offre e-commerce qui est la plus populaire au monde. Je crois que sur les sites internet, je vais y arriver dans le monde, WordPress c'est la plateforme la plus utilisée. Ils ne sont pas spécialisés e-commerce, ils font également de l'e-commerce. Donc ils viennent de lever 300 millions et ils sont aujourd'hui valorisés à 3 milliards de dollars. Ça paraît énorme, mais il faut se rendre compte qu'ils ont je ne sais pas combien de centaines ou dans millions de sites ils tournent sur WordPress, mais ils sont très gros. Et ce qui était intéressant, donc ils ont levé en série D, c'est que c'est Salesforce derrière qui a investi, Salesforce Ventures, qui a aussi investi l'année dernière dans la société pour laquelle je travaille. Et on voit que Salesforce Ventures, c'est vraiment une araignée qui tisse sa toile et qui investit dans énormément de sociétés, que ce soit pas juste des petits jeunes pousses, mais également des plus grosses sociétés. Et du coup, je crois que donc on peut aller sur le site de Salesforce Ventures et tu vois l'ensemble des sociétés pour lesquelles ils ont investi. Et ils investissent, ils mettent des quelques millions à je crois que c'est jusqu'à 100-200 millions, ce qu'ils peuvent investir. Et ce qui est amusant, c'est de voir que Ils ont une cinquantaine de sociétés, si je me souviens bien, dans lesquelles ils ont investi, et ça brasse très très large. Donc ils essayent de placer un petit peu, enfin d'avoir tout cet écosystème. Et maintenant, moi je le vis de l'intérieur, donc je le vois. Quand tu as Salesforce qui investit dans ta société, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont t'ouvrir leur CRM et commencer à vendre tes solutions. C'est simple, c'est une entité complètement différente. Ça ne devrait même pas s'appeler Salesforce Ventures, c'est quelque chose Ventures, bon, ou SF Ventures, SFDC Ventures, mais il y a très peu d'interaction avec Salesforce en tant que tel. Et Salesforce, ils ont d'autres programmes de partenariat si on veut travailler avec eux. Pour l'Amazon, Laetitia, ouais. Je voulais, avant de te parler de la news, te dire...
Dis-moi.
Je voulais te dire quelque chose.
Mais dis-moi.
Je vais te le dire.
Je suis tout de suite.
Je vais te le dire. Mais ça ne fonctionne pas, donc je vais te laisser parler de ta news, okay. Pendant que je règle...
Alors moi, ma petite news, bah, ça y est, vous commencez à me connaître, hein, je suis très portée sur l'environnement. C'est Amazon qui promet la neutralité en matière d'émissions de carbone, alors d'ici 2040, hein, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, 2040, c'est un futur assez proche. Hein. Donc en fait, Amazon se mange plein de critiques, et même si nous, on en parle souvent ici en des termes élogieux, non, en fait, Amazon n'a pas un bilan carbone exceptionnel, très peu ou alors en tout cas pas suffisamment des questions climatiques, et pourtant Amazon a annoncé avoir signé The Climate Pledge, qui est un engagement sur la neutralité en matière d'émissions carbone, donc à diminuer. Alors il parle de neutralité, mais en réalité c'est de la diminution, parce que ça risque d'être compliqué d'être neutre. Donc la diminution d'émissions carbone d'ici 2040. Et la firme a commencé par commander des véhicules électriques.
Et je crois que ça se fait suite à certaines critiques qui avaient été faites il y a quelques jours ou semaines sur la pollution. Donc non seulement ils retournent la critique, mais en plus ils vont au-delà et ils disent on va être.
Mais c'est ça la force de frappe d'Amazon. Hein.
Ma news que j'ai pu enfin reconfigurer devant moi, c'est... alors, tu sais qu'il y a Amazon Basics, c'est les produits qu'Amazon développe en propre. Donc, c'est très facile. Ils regardent en fait ce qui se vend le mieux, ce qui est en bonne tendance, et puis ils essayent de copier, de le proposer avec les bonnes fonctionnalités, etc. Donc, jusque-là, on était habitué à avoir des choses... Et en moins cher. Ils essaient d'avoir ils ont moins cher, parce qu'ils contrôlent tout, et surtout, ils se sont développés dans beaucoup de secteurs. Donc, après, la clé USB. Je ne les ai pas toutes faites, mais j'en ai pris quelques-unes. La clé USB, les piles, les climatiseurs portables, les écouteurs, les stylos, les chaises, les enceintes, les poêles, les valises, les enceintes connectées, les sacoches de podcast suite à la suggestion de Laetitia, c'est le meilleur investissement qu'on a pu faire dans le podcast. Le micro-ondes intelligent l'année dernière à $60, il lance désormais le four intelligent à $250, commandé avec Alexa. Et franchement, il y a une grande différence entre lancer un four et lancer un stylo ou une pile. Donc on voit que Amazon est également capable de se lancer dans une industrie un petit peu plus lourde,
un peu plus
complexe. Donc imagine demain des choses, déjà le four et le four micro-ondes, et là le four intelligent, je les vois bien lancer dans quelques années, tu sais, les robots, les KitchenAid, etc.
Oui.
Donc c'est ces robots qui valent 1000
le thermomix,
euros, c'est ça exactement, qui valent très cher. Là,
et
je
en
pense
cassant les prix.
Ils pourraient faire quelque chose de très intéressant.
Très bien. Aujourd'hui, nous recevons notre deuxième invité du podcast, Guillaume Tessier. Guillaume est go-to-market stratégiste, autrement dit le Jedi du lancement de produits. Guillaume est passé par le monde des agences, du e-commerce, par le SaaS et plus particulièrement dans le paiement. Dans cet épisode,
nous allons discuter tous ensemble du e-commerce B2B, du paiement et du business model. Et en fait, Laetitia, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que pour être complètement transparent, je connais Guillaume depuis 15 ans, on faisait le calcul, alors je ne sais pas exactement depuis combien d'années, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît, on s'est suivi, on a eu des parcours différents, on connaît, il y a beaucoup de personnes qu'on a en commun, et ça nous faisait très plaisir, Guillaume, de t'inviter, parce qu'on cherche avant tout à avoir des personnes bienveillantes autour de nous, en qui on a confiance et dont on connaît la crédibilité sur le marché. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à toi.
Merci à vous, je suis ravi d'être là pour cet épisode.
Justement, en préparant un petit peu l'émission avec Laetitia, on échangeait un petit peu. On sait que tu as une très bonne connaissance du paiement, du B2B, et c'était très complémentaire de ce qu'on a l'habitude de... de couvrir dans le podcast, parce que de par notre parcours, on a des affinités. Moi, notamment, ces 10 dernières années, j'étais surtout sur le B2C, donc c'est un marché que je connais beaucoup mieux et je suis moins au fait de ce qui se passe dans le B2B. Et on voulait justement, dans l'intervention qu'on allait avoir ensemble, que tu nous parles peut-être de certaines choses que tu as pu voir qui pouvaient être intéressantes pour nos auditeurs.
Bien sûr. Je voulais commencer. Le premier sujet, c'était de parler de quelque chose qui n'est pas forcément sexy, mais qui concerne beaucoup d'e-commerçants, c'est la PSD2, la nouvelle réglementation. Je ne voulais pas en parler de manière très classique, on va dire, en tout cas l'impact que ça peut avoir sur la conversion du tunnel de commandes. Même si avec le 3D Secure à une époque, il y a quelques années, on peut s'attendre à quelque chose d'assez similaire quand ce sera vraiment appliqué. Là, l'idée, c'était plus de prendre un peu de recul et de reprendre un petit peu les éléments qui sont liés à cette réglementation et voir, au-delà du paiement pur et de la conversion pure, ce que ça peut avoir comme impact. Changement.
Alors, on avait parlé justement de cette réglementation qui, on avait donné quelques tenants et aboutissants pour les e-commerçants, parce que c'est beaucoup plus large, et on avait, je crois, il y a quelques numéros expliqués que ça a été repoussé, ou en tout cas, il y a eu un soft launch, donc les commerçants vont avoir jusqu'à 18 mois pour mettre en place, en tout cas en France, et chaque pays d'Europe a des délais qui sont un petit peu différents.
Ouais, donc je voulais vraiment citer deux points qui me semblent assez intéressants à observer. Le premier, c'est de dire, d'un côté, comment l'e-commerçant peut faire pour essayer de minimiser l'impact de cette nouvelle authentification qui demande quelque chose de plus sécurisant et qui aura un impact sur la conversion. Il peut déjà regarder sur les aspects UX ou ce genre de choses, mais c'est pas trop ça que je voulais, dont je voulais parler aujourd'hui. L'idée, c'est plus de regarder dans quel cas potentiellement cette authentification forte qui fait partie des aspects de la PSD2. Dans quel cas elle ne s'applique pas. Et en l'occurrence, il y a notamment deux cas, qui est le cas de l'abonnement.
Et peut-être juste avant que tu ailles sur ces deux cas, rappelle, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent, ce que ça veut dire que l'authentification forte, peut-être à très haut niveau.
Oui, sur l'authentification forte, un des aspects de la réglementation, c'est de sécuriser les transactions pour l'acheteur final.
Pour éviter la fraude.
Voilà, exactement. Et donc en gros, il y a sur cette nouvelle réglementation et la partie authentification forte, en fait il y a trois points clés. Je vais les citer de manière très très basique pour que ce soit le plus simple possible, mais en fait il faut pouvoir attester de quelque chose que le consommateur sait, donc un mot de passe, quelque chose que le consommateur possède, un téléphone portable, un objet connecté,
une clé,
et le troisième point. Troisième point, c'est
quelque chose de biométrique, quelque chose qu'il a en lui.
Exactement, que le consommateur ait, donc une empreinte, une reconnaissance faciale et autres. Voilà. Donc c'est-à-dire que dans le process d'achat demain d'un e-commerce, il va falloir rajouter cette étape de vérification.
Et aujourd'hui, on le voit quand on achète, parfois tu reçois un code SMS que tu dois taper. Parfois tu mets juste tes informations de carte bleue et tu dis n'importe qui aurait trouvé ma carte bleue il peut acheter. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réglementation qui a été mise en place. Donc ça protège le consommateur.
Et la problématique du SMS, c'est qu'aujourd'hui il n'y a rien qui relie un compte bancaire et un téléphone portable, par exemple. C'est du déclaratif, donc c'est pas une sécurité en soi, c'est une étape supplémentaire qui donne une impression de sécurisation, mais dans les faits c'est pas le cas. Donc voilà, authentification forte, c'est justement de sécuriser cette transaction. Et il y a notamment deux cas qui sont exempts de ce niveau de sécurité, d'authentification. C'est notamment le cas des abonnements. Donc, je prends un exemple de Spotify, par exemple, demain. Je vais remplir une fois mes coordonnées bancaires et tous les mois, on ne va pas me demander d'authentifier et d'accepter le paiement. Donc, ça va être une fois pour toutes. Et l'autre cas, c'est le cas du prélèvement bancaire. Donc, c'est-à-dire que c'est le commerçant qui va venir prélever chaque mois mon compte du montant. Et dans ce cas-là, vu que j'ai autorisé le commerçant au départ à me prélever, chaque mois, il ne va pas venir me demander à chaque fois l'authentification.
Voilà. Et ce prélèvement, il peut être modifié, le montant peut être modifié chaque mois ? Ou ça doit être le même montant ?
À ma connaissance, il peut être modifié, puisqu'il est plus, dans le cas d'un usage, par exemple, un téléphone portable. Ouais. Le prélèvement, il peut être différent selon le hors-forfait ou autre.
Oui, donc, selon les options qu'on peut ajouter.
Ouais, exactement, donc le montant peut varier d'un prélèvement à l'autre.
Donc toi, à ton sens, ce dispositif d'authentification forte, il est vraiment pour protéger le consommateur final? C'est vraiment en ce sens que la loi a été pensée ou...
Oui, parce que ça a plutôt vocation à, en tout cas, entre guillemets, emmerder l'e-commerçant, puisque ça,
voilà. c'est vraiment là où je voulais en venir. Exactement. Parce qu'on protège le consommateur, mais on emmerde l'e-commerçant qui doit se doter aussi parfois de développement supplémentaire. Je pense à la reconnaissance faciale ou des choses comme ça.
Mais est-ce qu'il ne gagne pas s'il y a moins de fraude et si derrière il y a moins d'assurance à payer ou ce genre de choses? C'est des calculs. Mais...
C'est en effet un calcul. On a souvent tendance à se focaliser sur la conversion pure de son tunnel. Mais après, certainement, si on rajoute dans la balance les aspects fraude, peut-être que là, la
chose tout s'équilibre aussi. Alors, ouais. Peut-être. Ouais.
Pour le coup, je saurais pas donner vraiment l'équation globale, mais en effet, c'est plutôt en faveur du commerce, du client. Le commerçant, a priori, comme ça, à première vue, c'est plutôt en sa défaveur. Donc voilà, juste qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que surtout le cas des abonnements, c'est-à-dire qu'en mettant en place un abonnement, je passe à travers cette authentification forte. Et donc c'est quelque chose qui justement, selon moi en tout cas, doit amener les e-commerçants à se poser des questions sur la manière dont ils vendent les choses. Le e-commerce classique, c'est l'achat one shot, et je ne suis pas forcément d'une logique de récurrence. Et c'est ce que font des gros e-commerçants, Amazon et d'autres. Si je prends l'exemple d'Amazon Prime, par exemple, là, j'ai une vraie logique de récurrence sur une partie du service. Et associé à ça, la partie one-shot, où je vais continuer à acheter au fur et à mesure ce qui est utile pour moi.
Donc, si je comprends bien, Guillaume, est-ce que tu ne serais pas en train de nous dire que cette authentification forte permettrait à l'abonnement, qui est un business model, d'émerger, de frapper encore plus fort et d'être un vrai business model pour certains e-commerçants, de voir une opportunité dans cette contrainte qu'est l'authentification forte?
Tout à fait. Ce quoi je crois vraiment, c'est qu'en tout cas, c'est un mix de différents business models. Une partie achat one shot, toujours, puisque quand je vends un produit, a priori, je ne vais pas forcément acheter un ordinateur tous les mois. Mais potentiellement, je peux avoir différents consommables ou différents éléments qui sont liés à ce produit-là. Et potentiellement, je vais être intéressé à avoir un service
global, une expérience
client
le
qui est lié à l'achat de différentes choses, mais qui peuvent être fournies, à l'exemple d'Amazon.
On ne serait pas forcément sur de l'achat, comme tu le dis, de consommables, mais plus sur des services additionnels. Google le fait très bien quand on doit racheter de l'espace sur son drive, quand on doit, ou même Apple aussi, quand on doit acheter, maintenant, souvent les applications, et je l'ai déjà dit dans ce podcast, maintenant, c'est plus du one-shot. On te propose des achats intégrés par abonnement.
Donc, on pourra revenir un peu sur les autres business models. Tout à l'heure, comme tu disais, Adrien, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de parler de e-commerce B2B. Et au travers de ce sujet-là, on pourra revenir sur les business models et comment plusieurs business models s'imbriquent, se complètent, notamment dans le B2B. Le dernier point que je voulais citer concernant cette loi DSP2, cette réglementation DSP2, c'est notamment si ça impose aux banques d'ouvrir un accès aux données bancaires des consommateurs. Donc c'est ce qu'on appelle l'open banking. C'est donc les banques sont censées développer des API qui vont permettre à des sociétés externes, des services externes, de pouvoir accéder aux données bancaires du consommateur.
Et là, tu dis bien censé.
Oui, ça reste sous autorisation, bien sûr, du client.
C'est quoi les informations qui sont ouvertes? Si les créditeurs, débiteurs, ce genre de choses?
Ouais, le solde.
Tu peux avoir le solde, voilà. Le montant.
Mais après, tu peux avoir le détail des informations.
Tu peux jusqu'à tout avoir, ok.
Ouais, tout à fait. Un exemple, une société qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant en France, qui s'appelle Bankin, et qui, en tout cas jusqu'à maintenant, vu que ses API Open Banking ne sont pas disponibles vraiment en France aujourd'hui, et même dans d'autres pays, du coup, a trouvé un autre système pour contourner ça.
Ouais.
Voilà, exactement. Qui te permet... Le service qu'il propose, c'est t'aider à gérer ton budget. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se vendent. Hein. Banking, on vous aide à gérer votre budget.
Voilà. Ouais. Et bon, après, juste pour la petite histoire, Banking aussi, du coup, va proposer en mode B2B, justement, les API qui permettraient à une autre société d'exploiter aussi ses données bancaires pour autre chose. Donc, ils ont une double offre, en fait. Enfin, le cœur de leur système leur permet de proposer le système à quelqu'un d'autre. Et ils ont une partie B2C où ils ont une offre justement d'optimisation de budget pour le particulier.
Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur le B2B. Avec Adrien, c'est vraiment un peu notre révélation de l'année, hein, le B2B. On en parlait encore dans notre épisode spécial Paris Retail Week. C'est un marché qui est un peu, qui a longtemps été ignoré, boudé, à tort. Quel est ton avis dessus, Guillaume ?
Oui, c'est vrai qu'on, enfin, on a aussi cette vision de particulier par rapport à l'e-commerce. Et qu'est-ce que nous on utilise à titre personnel pour faire nos achats au quotidien. Donc forcément, on connaît beaucoup plus des marques, celles dont vous avez parlé tout à l'heure, VP par exemple. Et pour autant, il y a une myriade de petits sites, voire de gros, de grosses sociétés, qui sont plutôt orientés B2B, du coup. Et si on n'est pas la cible, on ne les connaît pas. Ça, c'est certain. Juste pour citer un exemple, je sais qu'on avait travaillé il y a peu de temps avec une société qui est très, très petite. Ça me fait penser d'ailleurs que dans un précédent podcast, vous parliez d'un site e-commerce qui vend des poils,
ouais, je crois,
en B2B.
Ouais.
Ouais. Là, le site que j'avais en tête...
Qui prévoit 9 millions de CA.
Hein, ce qui est déjà une...
Qui est énorme.
PME.
Mais surtout pour l'arcade qui sent, ouais. Ouais. Ouais.
Philippe, nous entends.
Et du coup, là, c'est une société un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le poil, mais ils vendent des pneus et des chaînes neige. Mais ils ne les vendent pas à des particuliers, ils les vendent à des garages, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ils ont tout un site e-commerce où n'importe qui pourrait acheter un pneu sur le principe. Sauf qu'après, la partie tunnel d'achat, etc., et pas du tout sur un mode paiement en ligne, mais sur un mode facturation. Quoi. Donc à la fin de chaque mois, la société fait le bilan du garage machin a acheté 50 pneus, et je lui fais une facture chaque mois. Et en l'occurrence, ça c'est quelque chose qui me semble important pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les moyens de paiement et PSD2, c'est qu'ils ne fonctionnent plus en mode facture, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que le garage Intel leur fasse le virement. Ils ont mis en place un prélèvement et automatiquement, à échéance de la facture, la société de vente de pneus prélève chaque garage du montant qui est dû chaque mois. Voilà.
C'est une des grosses différences qu'on voit sur les sites e-commerce B2B et B2C. B2B, tu peux acheter en ligne si tu veux, mais bien souvent, comme c'est des garagistes, ils vont avoir des paniers qui peuvent être plusieurs milliers ou dizaines de milliers ou même centaines de milliers d'euros. Donc, tu ne vas pas nécessairement le payer en ligne. Du coup, tu as le système de facturation. En fonction de ce que tu as négocié avec tel ou tel revendeur ou prestataire, certains vont payer à 60 jours, 90 jours, 120 jours. Tu vas avoir des négociations différentes. Et la complexité, c'est que tu ne vas pas vendre tous les produits aux mêmes personnes. Tu ne vas pas avoir les mêmes prix. Et la problématique des prix, elle est réelle dans le B2B, parce que c'est des choses que tu vas avoir négociées. En fonction du volume d'achat, ils vont avoir des prix négociés. Et notamment avec la rencontre avec, il y a deux jours, de B2B e-commerce en poil, il m'expliquait qu'il avait des dizaines de listes de prix, mais je m'attendais à beaucoup plus pour le nombre de revendeurs qu'il avait. Et je sais que dans le passé, j'avais travaillé pour des sociétés qui avaient des centaines ou des milliers de listes de prix, parce que chacun, t'as des commerciaux qui vont négocier les prix, et ensuite, il faut le retrouver sur le site e-commerce. Donc imaginez ensuite la complexité. Tu as le même site e-commerce pour tout le monde, mais chacun a des prix différents, des produits qui ne sont pas les mêmes. En fonction de qui tu es dans l'organisation, tu vas avoir peut-être des prix ou des offres différentes. Et le checkout ensuite, tu t'en parlais, la réalité c'est que les solutions e-commerce B2C, elles sont 95% sont les mêmes, parce que c'est toujours la même chose que le consommateur il veut. Tu crées ton profil anonyme ou tu le crées, tu revois ta commande, l'adresse de livraison, de facturation, le mode de paiement, etc. Et dans le B2B, ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait, chacun a des systèmes, des fonctionnements différents, donc c'est, ça vole en éclats.
Yeah. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a ce qui certainement aussi a les différents facteurs qui ont freiné peut-être le développement de l'e-commerce B2B. C'est ce dont tu parles. C'est d'un côté, même pour des petits paniers moyens, puisqu'il y a plein de choses. Je veux dire, j'achète des fournitures de bureau, par exemple, pour mon bureau, et je le fais tous les mois parce qu'on a besoin de post-it, etc. On n'est pas sur des gros paniers moyens, enfin, en tout cas pour des petites entreprises. Mais du coup, toutes les entreprises ne sont pas équipées d'une carte bleue d'entreprise. C'est souvent potentiellement que le fondateur ou le gérant qui a cette carte-là, et la personne qui est en charge d'acheter des post-it n'a pas forcément accès à cette carte. D'une part, donc du coup ça freine aussi cet aspect-là. Puis de l'autre, après, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a une complexité des offres des fois, au-delà du post-it. Je trouve un exemple d'e-commerce B2B qui illustre bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est Boeing par exemple, qui a lancé une marketplace. Et donc, à certains sites, tu peux acheter des pneus. Là, j'imagine que tu peux peut-être acheter un pneu de Boeing ou d'autres parties de Boeing. Mais du coup, évidemment, tu n'es pas sur des montants aussi accessibles qu'un
pneu.
Et qu'après, les conditions sont très différentes en fonction des sociétés et du référencement dans les services achats, quoi.
Ok, très bien, Guillaume. Il y avait autre chose que tu voulais partager ?
Ouais, je voulais juste revenir sur le paiement tout à l'heure. C'est que la réglementation PSD2, je pense pour moi, va avoir vraiment une incidence d'une part sur la manière dont on va proposer les business models. Donc, on n'est plus sur l'achat one shot, mais il y aura l'accumulation aussi peut-être avec un système d'abonnement, avec des services très variés selon les sites. Et le deuxième point, c'est que la carte bleue, à mon sens, ne sera plus forcément le moyen de paiement le plus systématique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul qui permet de s'assurer, côté e-commerçant, que le compte est bien solvable. Mais demain, si je prends avec l'open banking et que via un service bancaire, j'ai accès au solde de ton compte, j'ai plus besoin de la carte pour ça. Je le sais directement sur ton compte.
Donc ça serait, par exemple, l'IBAN. Voilà, c'est ça. Tu mets une information, un IBAN ou un login ou quelque chose, il va pouvoir faire une requête et il saura s'il y a l'argent. Il faudra de toute façon un code. Donc ça va être avec un login mot de passe.
Et ce qui manque aujourd'hui, si je prends le cas du virement, plutôt du prélèvement, c'est que la carte, c'est un côté pratique parce que c'est un peu comme un QR code, en fait. Oui. Tu vas scanner la carte et clac, tu as tes infos qui sont rentrées. La problématique de l'IBAN, c'est chiant, quoi. Voilà, c'est pas pratique. Mais quand t'es dans une logique de récurrence, ton téléphone mobile, internet, tout ça, tu le payes par prélèvement. On ne pose pas trop la question, on ne donne pas le choix. Voilà. Donc juste, si on regarde, Amazon propose de rentrer son IBAN en parallèle des cartes. Tu as LinkedIn aussi qui le fait
pour
la partie abonnement.
Et quelle est la différence pour un commerçant de proposer, tu citais Amazon tout à l'heure, il y a des commerçants qui le font, tu pré-enregistres ta carte. Ça serait quoi la différence? Parce que pour le consommateur, c'est la même chose, tu as enregistré ma carte, je mets juste mes trois, le code secret et c'est tout. C'est quoi les avantages et inconvénients, soit pour le consommateur ou soit pour la marque?
Après, ce qui est un point important, c'est que j'ai parlé de la carte et du prélèvement, mais entre les deux, il y a le virement.
Okay.
Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'open banking permet aussi de faire des virements instantanés. Et ça ne met pas 3 jours. Quoi. Donc du coup, ça veut dire que demain, je fais une commande sur un site e-commerce, qu'il soit B2B ou B2C. Plutôt que de payer par carte, je peux faire un virement instantané.
D'ailleurs, excuse-moi de te couper, Guillaume, mais le virement est très répandu, notamment en Allemagne. En France, c'est pas d'usage. On va préférer payer instantanément avec la carte bleue, mais il y a des tas de pays, je pense notamment à l'Allemagne, où il est d'usage de faire un virement quand on fait un achat en ligne.
Oui, mais en Allemagne, ils utilisent très peu la carte. Donc en espèces, paiement en espèces sur l'e-commerce, c'est compliqué. Donc en effet, le virement est très indiqué, ouais, tout à fait. Et donc, si je reviens après sur l'e-commerce et les business models, ce que je trouve intéressant, c'est on a l'e-commerce classique, c'est-à-dire j'ai une offre de produits ou de services et je la propose en ligne et en mode self-service. Donc, la personne va pouvoir faire son panier, potentiellement payer en ligne ou alors être mis en relation avec un commercial pour finaliser la commande en fonction des conditions. Donc je parlais de Boeing par exemple ou même d'Amazon, la partie business d'Amazon, Amazon Business, ou Alibaba aussi qui est un autre exemple. Et il y a un autre aspect aussi que je trouve intéressant dans l'e-commerce B2B, c'est l'aspect marketplace. Et là, en fait, d'un point de vue de marque, c'est que je me positionne comme je vais aider d'autres professionnels à acquérir des clients. Donc c'était tout l'origine d'Alibaba, c'est-à-dire comment des fournisseurs asiatiques pouvaient s'ouvrir au-delà du continent, enfin du pays. Et bah, du coup, l'e-commerce B2B là, est parfaitement adapté pour ça. Il y a un autre exemple que je trouve aussi très intéressant, c'est chez Saint-Gobain par exemple. Donc Saint-Gobain, ils ont un site où je peux acheter, moi artisan, des baignoires ou différents trucs pour faire mes chantiers. Et aussi à côté, ils développent une solution qui s'appelle OmniU, sous abonnement, qui va me permettre d'aller trouver des nouveaux chantiers en fait. Donc moi je suis un particulier, j'ai besoin de refaire ma salle de bain, je vais sur OmniU, je dis j'ai une salle de bain à refaire, et OmniU me met en contact avec des artisans. Donc l'artisan, c'est toute une partie acquisition pour lui, qui est super intéressante, qu'il n'arrive pas à faire lui à son échelle.
En fait. Il paye pour être référencé et il a derrière Saint-Gobain.
C'est de l'acquisition de lead pour lui, en fait. C'est une plateforme d'acquisition de lead. Et le troisième aspect, qui est tout aussi intéressant, c'est plus la partie application en fait dans ce système B2B. Dire bah voilà, ok, mon artisan, je lui amène des leads, mais je vais aussi lui fournir un logiciel de facturation, des outils, des apps, des softwares qui vont lui permettre de faire son taf.
On en a beaucoup appris et je pense que vraiment. On va être d'accord sur une chose, deux choses même, hein, sur le business B2B qui est vraiment à regarder de plus près. On en a discuté en préparant l'émission, mais tu avais noté des chiffres. Je crois qu'on parle de 6,7 milliards de dollars en 2020 sur le marché mondial du commerce, du e-commerce B2B. Ça, c'est la chose que je vais retenir.
Ouais, et je crois que c'est juste, je sais plus quel est le facteur, mais c'est peut-être deux voire trois fois plus, je sais plus, le B2C, quoi, ouais. Le marché B2C. Quoi. C'est énorme.
Ouais. Ouais, et puis ce shift vers ce business model de l'abonnement, très bien.
Il y avait autre chose, Guillaume, que tu voulais ajouter, non?
Juste un petit, j'avais le petit site.
Bah ok, c'est
ça. Oui,
on t'avait demandé de préparer, donc on demande à nos invités de venir avec un site qui les inspire, une marque qui les inspire ou quelque chose qu'ils veulent partager.
Et
donc,
bah là, il y en a pas mal, hein, Saint-Gobain, fallait aller la chercher, la marketplace Saint-Gobain.
Alors vas-y, parle-nous du site qui t'a inspiré, que tu voulais partager avec nous.
Je voulais parler d'un site qui est anglais, qui s'appelle Learner Bly. Donc Learner, j'apprends, et puis bly.com. Et en fait, c'est un site que je trouve B2B qui est assez intéressant dans son modèle. En gros, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que c'est une plateforme d'e-learning B2B. Donc, je m'intéresse au SEO, par exemple, je veux me former sur différents trucs, je veux apprendre le SEO. Et ben, ils vont faire une curation de contenu sur des articles, des podcasts, des choses, des contenus gratuits, mais aussi des formations payantes. Et je vais pouvoir me créer en fait un programme sur mesure. Sur une thématique en particulier.
Et pourquoi c'est B2B ? À qui est-ce qu'ils vendent ? À des écoles ?
Du coup, en fait,
les entreprises ?
Ils vendent ça aux entreprises, aux services RH en fait, aux services formation, ouais. Au sein des entreprises.
Donc ça passe au compte de la formation.
Exactement.
Donc nous, enfin depuis des années où je travaille pour des sociétés, on avait accès à Lydia, je ne sais plus si ça existe encore. Il y a aussi LinkedIn University ou je ne sais pas comment ça s'appelle non plus. Et le gros problème, il y a trop de contenu. Déjà, il y a pas ce, enfin ils ont essayé de mettre en place LinkedIn. Alors je l'utilise peut-être plus assez pour le voir, mais je sais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour dire tu un développeur tant et ben on va te faire ton parcours, mais je t'ai pas convaincu. La qualité des vidéos est top sur LinkedIn, sur Lydia c'est juste terrible dans le sens négatif du terme, et sur LinkedIn il y avait grande qualité des vidéos, mais je t'ai pas convaincu, tu te sens noyé sous toutes les ressources. Donc je pense que le côté aussi multi canal ou multimodal de faire des podcasts, du vidéo, de l'audio, etc., des choses interactives, du texte, ça peut être intéressant. Et donc comment t'en as entendu parler, parce que toi tu as utilisé la plateforme au travers d'une entreprise.
On l'avait dans une société où j'ai travaillé, on avait en tant que salarié accès justement à la plateforme.
Donc tu as pu la tester, l'utiliser.
Voilà, exactement. Ouais.
Et c'est alors autant, moi j'ai une question qui est un peu personnelle du coup, qui est le type de contenu que tu utilisais le plus et qui te parlait le plus et sur lequel tu apprenais le plus. Est-ce que c'est le podcast ? Est-ce que c'est la vidéo ?
Pour moi, après, c'était un mix. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils vont, ils vont au niveau article. C'est-à-dire qu'il y a un article totalement gratuit qui est publié sur un peu importe quel site, mais ils vont intégrer un article aussi dans le programme de formation d'une certaine manière, en fait. Donc c'est vraiment du simple élément le plus accessible, le plus gratuit possible, jusqu'à une formation hyper
évoluée. Tu nous rappelles le nom de cette marketplace
Learner.com. Voilà. Pas forcément très riche aujourd'hui en contenu francophone, mais je trouve l'idée intéressante. Et en fait, juste pour rebondir par rapport au business model dont on parlait tout à l'heure, c'est que d'un côté, l'entreprise paye des access fees par employé, donc récurrent. Et puis de l'autre, j'ai un site commerce classique, c'est-à-dire que je vais aller acheter un bouquin, une formation, des trucs, dans un crédit qui est crédité par ma société, en fait. Voilà. Et donc du coup, après, qu'est-ce qui se passe ? Marketplace, justement, bah, je par la plateforme, j'achète une formation General Assembly, par exemple, je sais pas quoi, sur l'UX. Bah, du coup, la plateforme reverse l'argent à General Assembly, donc Marketplace. Ouais.
Très bien.
Donc les trois business models.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te trouver, te joindre, te contacter, si on a envie de poursuivre ces discussions avec toi ?
Ouais, franchement, le plus simple, c'est voilà, Guillaume Tessier sur LinkedIn.
Ok, voilà. Ouais.
On mettra ça sur, dans les commentaires. Vous commencez à connaître la chanson.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédecommerce.fr et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Si vous souhaitez, comme Oussama, Guillaume et bien d'autres qui vont nous rejoindre, participer à nos interviews, vous travaillez dans l'e-commerce et vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à nous contacter sur info@lecafédecommerce.fr, sur le site internet, sur le formulaire. Il y a même quelque chose de très simple qu'on a mis en place dans les descriptions de l'épisode. Vous avez tout en bas comment nous rejoindre, il y a un lien, c'est anonyme, vous cliquez dessus, il y a un petit formulaire, vous laissez ce que vous voulez, pas besoin de mettre de mail, de numéro de téléphone, rien du tout, vous laissez un commentaire et si vous voulez vous nous donnez vos commentaires vos coordonnées pardon et on lira tout ça.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast.
Laetitia, une dernière chose, le café de l'e-commerce ne perd jamais. Merci à tous. Au revoir.